Bonjour tout le monde, c'est votre topo des marchés en ce samedi 24 décembre. Hein? On est à la veille de Noël aujourd'hui. On va regarder quelques éléments là, qui ont retenu mon attention là, sur les marchés depuis quelques jours et quelques semaines, je devrais dire. Si on commence tout d'abord par le maïs, plusieurs se demandent est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? Hein? Une question très 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 importante. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de grosses nouvelles qui pourraient bouleverser la tendance actuelle, le marché. Donc, je crois qu'on est sur un marché que j'appelle de côté. Ça pourrait rester comme ça jusqu'au printemps, hein, à moins qu'il nous sorte quelque chose comme on a vécu dans les 2 dernières années, là, qu'on s'attendait vraiment pas. Mais je m'attends pas à des grosses, grosses surprises. Le rapport qui va être à surveiller, si je ne me trompe pas, est publié le 12 janvier là, par l'USDA. Dans le fond, c'est le bilan mensuel, mais avec les chiffres finaux là, de la récolte 2022, c'est là qu'on va avoir une idée de l'offre, l'offre totale, l'estimation de l'offre totale de maïs américain. Du côté du maïs américain, les exportations de maïs commencent à vouloir sortir la tête de l'eau un peu, mais il reste qu'on est très en retard là, sur les dernières années, donc la demande n'est pas nécessairement au rendez-vous. Et si la récolte en Amérique du Sud se concrétise telle qu'elle est prévue sur papier présentement, ben évidemment au printemps, quand cette récolte-là va arriver dans le marché, il va y avoir beaucoup de pression sur les prix. Fait que, ça, je vous dis que le marché est comme dans l'attente de voir si tout ça va se concrétiser avant de partir dans un sens ou dans l'autre. C'est sûr que si Dame Nature nous joue des tours cet hiver, ben le maïs pourra partir et sortir de ce corridor-là, repartir vers le haut et sortir de ce corridor. Mais pour le moment, on risque d'être emprisonné là, dans cette range de prix là qui est autour de 7 et de 6,50 là, c'est les deux points forts de ce corridor là, tant à la hausse qu'à la baisse. Donc on risque d'être entre ces deux bornes là pour quelques semaines encore. Maintenant, autre élément, hein, le tourteau de soya, vous avez vu, le graphique parle de lui-même. Le prix du tourteau de soya a complètement explosé et très 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 rapidement. Hein. Si vous regardez le graphique, on était comme vraiment un marché qui était plutôt neutre, hein, sans tendance, avec des hauts et des bas évidemment, mais pas de grosses sorties ni à la hausse ni à la baisse. Et tout d'un coup, boum, qu'est-ce qui a provoqué cette hausse-là? Pour mieux comprendre, ben, je vais sortir un petit. Il y a une des raisons ici, hein, ce qui se passe en Argentine. L'Argentine, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, c'est le principal exportateur de tourteaux de soya. Et ce que vous voyez en rose pâle, là, c'est le nord du pays de l'Argentine, si on veut, qui est extrêmement sec présentement, donc qui commence à titiller le marché. Donc, il se dit, s'il y a moins de soya en Argentine, il va y avoir moins de tourteaux disponibles. Donc, c'est une des raisons pourquoi le tourteau de soya est reparti vers le haut. Et si on va un peu plus haut sur cette carte-là, vous voyez où il y a du bleu, du vert. Côté du Brésil, ben, ça va plutôt bien. Hein, les conditions, l'humidité est au rendez-vous. Donc, on n'est pas dans le même scénario. Donc, un des premiers facteurs qui a fait monter le prix là, du tourteau de soya, évidemment, marché de météo. Est-ce que ça aura un impact réel et final sur les rendements? Ben, on verra parce qu'on est encore, les semis ne sont pas encore tout à fait terminés dans cette région. Donc, on verra ce que ça donnera pour la récolte. Maintenant, autre élément que je voulais souligner, ici, je vous ai sorti le graphique, ce qui est en bleu. C'est le prix du tourteau, mais vous voyez ce qui est la ligne orange, hein, le prix de l'huile de soya. L'huile de soya a chuté, donc vous voyez que la réponse a été inverse pour le tourteau. Hein, donc si le prix de l'huile chute, on fait le calcul rapide. En tout cas, du moins, le marché a fait le calcul que si le prix de l'huile allait chuter et qu'on allait produire moins d'huile, donc moins de tourteau. Et évidemment, vous avez compris que le prix du tourteau repart en montant. Donc, c'est des courbes inverses, hein, le prix de l'huile et du tourteau, souvent, là, c'est très, très peu corrélé. Donc, dans cette fois-là, c'est flagrant. Là, vous voyez, quand le prix de l'huile a chuté, ben, le prix du tourteau a pris le chemin inverse. Pourquoi le prix de l'huile a chuté? J'ai sorti un autre petit graphique ici. Ce que vous avez en bleu, c'est le prix de l'huile de soya. Ce que vous avez en orange, la petite ligne orange, c'est le prix du pétrole. Évidemment, vous voyez, le prix du pétrole a chuté. Entamé sa chute et le prix de l'huile a suivi. Donc ces deux, c'est quand même pas parfaitement corrélé. Vous voyez, le graphique a quand même certains écarts, mais quand même, il y a une certaine corrélation à faire entre le prix du pétrole et le prix de l'huile de soya. Évidemment, vous avez compris que c'est pour le biodiesel. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien avec le prix du pétrole. Vous voyez, la hausse récente du pétrole a ramené le prix de l'huile aussi vers le haut. Donc ces éléments mis ensemble-là ont fait que le tourteau de soya a finalement complètement explosé. Est-ce que tout ça pourrait se replacer dans les prochaines semaines? Peut-être. Probablement que la hausse dans le tourteau était fortement exagérée, une hausse très, très, très rapide sur des anticipations, en fait, là. Oui, il y a un contexte fondamental peut-être un peu plus négatif, mais quand même, faudra voir. Mais je pense que tranquillement, ça risque de s'effriter au niveau du prix du tourteau de soya. D'autant plus s'il devait y avoir quelques averses, là, aux bons endroits en Argentine, on verrait les prix dégringoler assez rapidement. Maintenant, du côté du porc, si on voit le prix, pas le prix du porc, excusez, mais hier, le 23 décembre, l'USDA finissait la semaine avec le Hogs and Pigs, un rapport qui est publié 4 fois par année, et le traditionnel Hogs and Pigs juste avant Noël. Pas tellement de grosses surprises dans ce rapport-là, comme vous pouvez voir ici, là, toutes en ce qui concerne les inventaires, hein, ça tourne tout en baisse à peu près autour de 2%, c'est ce que le marché s'attendait essentiellement. Par contre, là où ça pourrait peut-être être moins positif pour le long terme, hein, on ne parle pas du court terme, vous avez compris que les inventaires qu'on a présentement, c'est pour les 6 prochains mois, hein, parce qu'on découle ça, donc on s'attend pas à une augmentation de la production d'ici, autrement dit, d'ici le mois de juin, en fait, là. Ce qu'il faut regarder, par contre, c'est les intentions de mise bas et le nombre de truies. Le nombre de truies est en augmentation d'un petit demi%. Depuis 2 ans, on voyait le nombre de truies reculer. Il y a une certaine stabilité qui semble s'installer. Donc, si on parle pas de croissance présentement, mais plutôt de stabilité de la production, je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter tout ça. Et il y a aussi au niveau des intentions de mise bas. Les intentions de mise bas de décembre à février, ben, ce serait une augmentation de 1% et de mars à mai de 0,5%. Donc, les éleveurs ont l'intention d'essayer un peu plus de truies. Ils ont saillie plus de truies, en fait, là, parce que les mises bas de décembre à février sont déjà saillies, ces truies-là. Donc, on aurait saillie plus de truies un peu cet automne. Donc, ça nous amène dans les sevrages de, dans les, dans la production de deuxième moitié de 2023, excusez. Aller jusqu'au mois de juin, la production serait possiblement en baisse ou stable avec celle de l'année précédente. Par contre, peut-être une légère augmentation de production pour la deuxième moitié de 2023. Ce qui est plutôt négatif là, pour les prix, tout dépendant de l'état de la demande aussi, la demande mondiale. Là, on parle de récession de plus en plus. Est-ce que ça aura un impact, oui ou non, sur la demande? On verra. Mais c'est ce qu'il y a à retenir dans ce rapport-là. Donc, comme les marchés étaient fermés quand le rapport est sorti, on n'a pas pu voir la réaction du marché. On va voir la réaction plutôt mardi, à l'ouverture des marchés. Qu'est-ce que ça donne? Comment les joueurs du marché vont avoir interprété ce rapport-là, mais il risque d'être plutôt neutre à négatif comme réaction. Mais je vous ai sorti ici le graphique, là, c'est le contrat de juillet 2023, le porc, vous voyez, hein, c'est des prix qui sont présentement à leur sommet. On est rendu au-dessus du 300 $ du 100 kg, là, avec si on remet la si on le fait en dollars canadiens avec les conversions qui conviennent, là. À la fermeture d'hier, on était rendu à 302,25 du 100 kg. C'est des prix extrêmement élevés pour l'été. Donc, le marché présentement, ce que ça nous dit, c'est qu'il est encore très, très positif en ce qui concerne très positif dans l'équilibre de l'offre et de la demande, en fait, là, pour cette période-là. On verra si pour l'automne 2023, la confiance du marché vient s'effriter quelque peu parce que les valeurs sont quand même très intéressantes. Donc, pour une période de 12 mois, là, le 2023 actuellement, on a franchi la barre des 260 $ du 100 kg. On est même quelques dollars au-dessus pour une moyenne de 12 mois. Ça représente tout près de ça représente tout près de 300 $ par porc sur 12 mois. Ça me dit, oui, le coût d'alimentation est excessivement élevé, mais on s'approche très, très, très près. Même dans certains cas, on réussit à dégager une marge avec des valeurs comme celle-là sur une période de 12 mois, même avec les prix de grains qu'on a actuellement. Donc, pour ceux qui ont des stratégies à mettre en place dans le port, c'est à surveiller de très, très près là, ce qui se passe présentement là, dans les marchés. Les valeurs commencent à être de plus en plus intéressantes. Maintenant, dollar canadien. J'ai sorti un petit graphique ici. Hein, c'est toujours la comparaison avec ce qui se passe sur le marché boursier, la corrélation est encore très très forte. Ce qui est en bleu, c'est notre dollar canadien et en orange, c'est le SP500, la bourse américaine. 500 plus grandes entreprises américaines, vous voyez que c'est très 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 corrélé avec ce qui se passe sur la bourse et notre dollar canadien. La Banque du Canada commence à ramollir légèrement son discours en termes de hausse de taux d'intérêt. Donc on peut s'attendre à des hausses de taux probablement plus modérées. D'ici les prochains mois, et peut-être si on est chanceux, un arrêt de ces hausses-là, hein, qu'on aurait finalement vu le plafond des hausses de taux, parce qu'on voit que l'inflation est encore forte. Par contre, on voit qu'il y a une certaine. On aurait peut-être vu les sommets là, en termes d'inflation, tant ici qu'aux États-Unis, donc tant la Fed que la Banque du Canada pourraient commencer à modérer son agressivité là, dans les hausses de taux d'intérêt. Donc, c'est ce que ça nous dit. Puis les perspectives sur le dollar canadien, les specs sont encore très larges, hein. Certaines institutions sont très positives pour le dollar canadien, alors que d'autres sont plutôt négatives, hein. Quand on parle du 72, 73, là, ce serait les niveaux actuels, même un peu plus bas, en moyenne pour 2023, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus dans les 75, 76, 77. Donc, on comprend ici que quand il y a des spectres très larges comme ça, c'est que la boule de cristal est encore très embrouillée. C'était un peu différent des dernières capsules. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas, hein, vous pouvez me contacter au 418-475-6641 poste 147. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Ou vous pouvez m'écrire au efournier@commercialbernardbreton.com. Et puis sur ce, ben, je vous souhaite, moi et je me joins à l'équipe de toute l'équipe de Bernard Breton pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Profitez-en bien. C'est une période de l'année où on peut fêter en famille, profiter des fêtes pour vous reposer. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonjour.